La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté, bienvenue à La vie des idées. Depuis quelques mois, nous le savons, les rapports entre les sexes sont tendus à la grandeur du monde occidental. Les mouvements MeToo, moi aussi, et Balance ton porc en France ont suscité une immense controverse des deux côtés de l'Atlantique et elle se poursuit ces jours-ci suite à la publication d'une lettre ouverte de 100 personnalités françaises qui ont pris leur distance avec le consensus des derniers mois. Est-il néanmoins possible de parler du masculin et du féminin en ne se situant pas exclusivement dans cette controverse? Est-il encore possible, autrement dit, de se questionner sur le rapport entre les sexes sans penser d'abord et avant tout le conflit entre les sexes? C'est à tout le moins le pari que nous ferons aujourd'hui, dans la prochaine heure, avec Jean-Philippe Trottier, que les auditeurs de Radio-VM connaissent bien, et qui vient de participer à un intéressant débat sur le patriarcat dans le dernier numéro de la revue Argument. Jean-Philippe Trottier, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Léolane Kemner, romancière, qui s'intéresse aussi à la question des rapports entre le masculin et le féminin dans la société actuelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jean-Philippe Trottier, je commence avec vous, puisque avant même tout le débat actuel, à l'origine de cette invitation, il y avait votre participation à ce débat passionnant dans les pages de la revue Argument autour du thème « Vivons-nous dans une société patriarcale ?» Et la question que j'aimerais vous poser pour ouvrir notre réflexion est toute simple. Dans cette époque de déconstruction généralisée, qui a tendance à nous dire que le masculin et le féminin ne sont que des fantasmes idéologiques sans ancrage dans le réel, c'est un peu la théorie du genre à certains égards, dans cette époque d'indifférenciation qui pense chaque différence comme une injustice, est-il encore nécessaire, est-il encore possible de penser le masculin et le féminin à la manière de point de vue, de perspective sur le monde et non simplement comme des constructions sociales artificielles? Est-il possible de penser le masculin et le féminin?
Oui, il l'est, Mathieu. Le féminin est pensé en grande partie par les féministes. Elles ont dégagé depuis 100 ans l'être femme en tant que femme, et c'est très bien ça. Le problème, c'est que les hommes n'ont pas suivi le mouvement et ils n'ont pas compris la nature de ce combat féminin, je pense, et ils ont au moins deux générations de retard. L'homme, je parle de l'Occident, hein, l'homme blanc chrétien... de foi ou de culture hétérosexuelle occidentale, et a été le référent universel pendant 5 siècles, même voire plus, si vous voulez. Et donc, il se contente d'être le référent universel, encore une fois, alors qu'il n'est plus incarné dans sa particularité. Il n'y a, à mon avis, que les réflexions homosexuelles qui parlent, je parle de l'homosexualité masculine, qui parlent de l'homme. Le problème, c'est qu'elles sont subsumées, elles sont, si vous voulez, chapeautées sous le chapiteau, si vous voulez, du diversitaire, du minoritaire, et non pas du masculin. Donc, le masculin et je le sais, moi je propose de temps en temps des sujets, pas à cette radio, mais un peu ailleurs, des thématiques sur le masculin, et c'est toujours un feu rouge, un mur, c'est un tabou. Alors, du côté des hommes et des femmes.
Alors comment expliquez-vous cette difficulté à penser le masculin et si nous faisions le pari de penser le masculin, que pourrions-nous trouver? Quelles seraient les premières pistes qui nous permettraient de penser le masculin dans sa singularité, dans son noyau spécifique?
Bon, il y a d'abord sexuellement, mais le problème, tout le monde est d'accord sur le fait qu'un homme a une queue entre les jambes, puis ça s'arrête là, si vous voulez. Okay? On ne va pas s'engueuler là-dessus. Maintenant, c'est est-ce qu'il y a une fonction masculine dans la société? Oui. Est-ce qu'il y a des invariants anthropologiques? Est-ce que l'homme... La femme, par exemple, c'est en un sens plus simple. Son appareil reproducteur indique qu'elle donne la vie. D'accord? Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais l'homme, qu'est-ce qui lui donne la semence? Puis qu'est-ce qu'il fait d'autre après, à pas apporter le salaire et changer des couches si on lui demande? Est-ce que l'homme a une fonction autre que le masculin? Je pense au sacerdoce catholique. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait dans l'Eucharistie? Il fait un sacrifice. Le prêtre, quand il commence la prière eucharistique, il dit tout le temps « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». C'est quoi un sacrifice? C'est de tuer une personne à Christi pour ressusciter. L'homme a un rapport avec la mort, la femme a un rapport avec la vie, dit de façon extrêmement lapidaire. Donc c'est une piste que l'on peut explorer. Je ne parlerai pas du sport, je ne parlerai pas de l'économie, tout ça c'est interchangeable, on est dans le rôle. Je parlerai de fonction davantage, mais ça le mot fonction qui se réfère à autre chose, à une totalité, à une transcendance, a encore une fois mauvaise presse aujourd'hui, donc on est coincé.
Alors nous reviendrons sur cette distinction essentielle entre rôle et fonction. Léolane Kemner, vous êtes plus jeune que moi, plus jeune que Jean-Philippe Trottier, vous êtes de cette nouvelle génération qui a peut-être été élevée, vous me corrigerez, dans ce culte de l'indifférenciation sexuelle, dans cette idée de l'interchangeabilité du masculin et du féminin, ou à tout le moins dans cette idée que le masculin et le féminin, est-ce que, autrement dit, ces idées pouvaient-elles aller au-delà du ma manière à moi de le percevoir en temps, autrement dit, une forme d'individualisme exacerbé, chacun avait sa définition du masculin, sa définition du féminin. Est-ce que je me trompe en disant que néanmoins vous cherchez malgré tout dans cet environnement médiatique et social qui pousse à l'indifférenciation, vous cherchez néanmoins à penser la différence des sexes sous le signe de, à tout le moins sous le signe d'une différence fondamentale qui ne serait pas accidentelle, qui ne serait pas secondaire, qui ne serait pas mineure?
Et moi, tout d'abord, je dois dire que même du fin fond de ma campagne profonde, tout au long de mes années d'enfance, d'adolescence et de jeune vie d'adulte, je me suis jamais, au grand jamais, sentie discriminée de quelconque manière que ce soit dans le fait d'être choisie pour quelque chose, dans le fait d'être considérée ou estimée ou respectée parce que j'étais une femme. Ça faisait même pas partie de ma réflexion. Je ne ressentais rien de ça. C'était moi, en tant qu'individu, qui avait simplement le droit de participer, d'exister. Puis mon sexe avait rien à voir là-dedans. Cela dit, moi j'aimerais rebondir avant de répondre à votre question, sur ce que vous avez dit par rapport au rôle réel de l'homme dans la société. Je suis pas d'accord avec le fait que on parle d'une pulsion de mort chez l'homme. Moi, au contraire, ce que je remarque, c'est que le réel devoir de l'homme n'est pas celui de dominer ou de soumettre, et c'est vraiment celui de protéger. Parce que si la femme donne la vie, ultimement, le rôle de l'homme, c'est pas juste d'apporter salaire et pain sur la table, c'est celui de protéger sa descendance. C'est une question fondamentale, puis ça fait partie de sa nature profonde. Aussi, je dirais que oui, on peut penser spécifiquement le masculin et le féminin, même que c'est très essentiel, mais que pour le faire sainement, on n'a pas le choix de partir du postulat qu'on n'est pas opposé et donc adversaire, mais complémentaire. Et c'est vraiment cette nuance-là qui fait cruellement défaut dans le débat en ce moment. C'est qu'on n'arrête pas d'envisager l'homme et les femmes comme deux pôles à peu près incompatibles, sauf pour procréer, et pour le reste, c'est que conflit, que tentative de domination. Et je trouve qu'on fait grandement erreur, parce que si j'ai pas grandi avec le sentiment d'être inférieure parce que j'étais une femme, j'ai nécessairement grandi exposée à des modèles de masculins très, très sains, très ouverts. Moi, je suis la grande sœur de deux jeunes frères qui sont des hommes extraordinaires aussi, qui ont été élevés dans le naturel du respect, de l'estime, de l'égalité. Et donc, je vous avoue que c'est... Personnellement, je suis confrontée à cette espèce de grand débat-là depuis un court temps à l'échelle de ma vie. Donc, je trouve que, à quelque part, il y a quelque chose d'injuste dans le fait de polariser à ce point-là et de catégoriser l'homme comme étant une source de problèmes, finalement, dans la société.
Alors, cela dit, vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de récent, de surprenant dans la nouvelle vague féministe, disons ça comme ça. Pendant longtemps, le terme féminisme était peut-être même discrédité, c'est-à-dire il faisait ringard, vieillot, presque aussi pire aujourd'hui qu'on dirait souverainiste.
Je trouve pas.
Pendant quelques années, il y avait quand même peu... C'était d'ailleurs un enjeu dans les mouvements féministes où on disait les femmes ne veulent pas se dire féministes. Donc, on s'inquiétait du fait que le terme était de peu de peu utilisé, peu revendiqué. Et depuis quelques années, il est de nouveau de retour dans l'espace public. Depuis 5 ou 6 ans, une forme de réhabilitation de ce terme-là. Donc, vous ne voyez pas cette espèce de retour où, pour vous, le féminisme
oui,
a toujours été une référence qui faisait partie de votre univers mental, social, idéologique?
Oui, parce que, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours fait partie de mes influences et tout ça. Pendant mes jeunes années, j'aimais beaucoup entretenir un discours, non pas militant, mais encourageant. Surtout au niveau du rapport au corps envers mes sœurs, mes congénères féminines, j'avais envie de discourir sur le fait que la réelle discrimination, je trouvais qu'elle venait souvent de nous face à nous-mêmes, que ce soit dans notre rapport à notre sexualité, dans notre rapport au corps et tout ça. Je trouve que les femmes entretiennent encore beaucoup, malgré elles, dans leur subconscient, le fait qu'on peut être sali par un rapport, que ce soit, puis on le voit en ce moment, une main sur une cuisse peut être considérée aussi... grave en termes d'agression qu'un coït inopportun. Là. Je veux dire, dans le discours populaire, je trouve sincèrement qu'il y a une espèce de dérive, on va dire, sémantique sur la question d'agression, en fait. Puis je trouve, excusez-moi, j'ai un petit peu perdu le fil d'où est-ce que je m'en allais, mais...
Non, mais je poserai aussi la question à Jean-Philippe Trottier. On a vu la question du féminisme pendant une vingtaine d'années, peut-être, c'était une question qui était congelée. C'est-à-dire, en dernière essence, il n'était plus bien vu de se dire féministe, tout comme aujourd'hui, il n'est presque plus bien vu de se dire souverainiste au Québec, en quelque sorte. Le féminisme était ringardisé. Et là, on a assisté à un retour du féminisme. Alors, mais vous me dites que vous n'avez pas vécu ce retour, peut-être, est-ce que votre émergence à la conscience civique correspond au moment où le féminisme reprenait ses droits?
Non, mais c'est comme on dirait que ma génération, on a peut-être été moins... sans dire moins conscientisé, c'est comme si, étant donné qu'on ne vivait pas nécessairement avec les réels enjeux sous le nez, on n'a pas été éduqué avec le terme féministe. Je veux dire, en tant que femme, puis je sais que là, je parle pour moi beaucoup, mais j'ai pu observer quand même ce phénomène-là. On a toujours eu le droit d'exister. Je veux dire, j'ai jamais eu à me battre parce que j'avais des seins, en fait. C'est aussi niaiseux que ça, mais je sais que c'est pas la même chose partout, que c'est pas la même condition dans tous les milieux et dans tous les pays, évidemment. Mais honnêtement, je trouve que de simplement polariser comme ça et d'être extrême dans nos propos, je trouve que c'est injuste par rapport au réel progrès qu'on a vécu depuis de nombreuses années, depuis la fin, finalement, de l'hégémonie religieuse, où est-ce que les hommes ont énormément ouvert leurs esprits, ont énormément su adapter une bonne part de leur psyché, de leur mentalité, de leurs valeurs, de leurs traditions, justement, pour faire la place légitime aux femmes qui nous revient de droit dans la société. Mais là, je comprends que, à cause des inégalités très, très niaiseuses qui ont subsisté pendant longtemps, qui ont accroché dans le tapis, que finalement, ben, il y a une grogne qui a eu le temps de monter, et aujourd'hui, elle est devenue extrême, mais même si elle est justifiée dans de nombreux endroits, je trouve que les débordements sont dangereux et frauduleux intellectuellement.
Jean-Philippe Trottier, je me permets de vous poser aussi la question parce qu'elle me semble néanmoins s'imposer d'une manière ou de l'autre. Peut-être avez-vous le même rapport que moi à ces événements, mais sur une vingtaine d'années, 30 ans, la référence au féminisme s'était un peu épuisée. Et là, on assiste à son retour dans l'espace public. Je tiens à souligner, j'ai oublié de le dire en début, vous avez écrit un livre il y a quelques années sur la question du féminisme au Québec. Aux éditions Michel Brûlé.
Le grand mensonge du féminisme, titre de mon éditeur, pas de moi, a sous-titré la triple castration de l'homme québécois.
Très juste. Alors, donc, vous avez écrit sur cette question-là depuis un bon moment. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'on assiste à un retour du féminisme? Et si oui, pourquoi?
Je dirais que la nature a horreur du vide et on vit dans une société complètement désenchantée. On ne se raccroche pas aux religieux, qui était notre référence auparavant. Il faut bien trouver une idéologie, quelle qu'elle soit, pour se donner l'impression d'exister. Et un combat noble. Le plus facile, c'est l'écologie et le féminisme. Et
En quoi sont-elles les plus faciles?
Parce que personne n'ose mettre en doute les dogmes du féminisme, personne n'ose les discuter. J'ai osé, j'en ai payé le prix, notamment auprès des intellectuels. Personne n'ose, donc, et puis c'est... On est en mode hyper patriarcal encore parce qu'il faut encore défendre la veuve et l'orphelin. Que les femmes prennent leurs droits, tout à fait, mais que les hommes aussi prennent leur place en tant qu'homme, que moitié de l'humanité, et non pas comme uniquement le protecteur, comme vous disiez, il a droit aussi à être protégé de certaines autres choses aussi. L'écologie, ben c'est évident, la planète semble-t-il se réchauffe, on ne le voit pas trop ici, mais l'idéologie dit que la planète se réchauffe, et ben forcément ça aussi, personne n'est contre la vertu. Donc, on recycle encore une fois dans le néo-féminisme les vieux dogmes d'antan. C'est un thème et variation, en fait. Le thème, les harmonies sont les mêmes, le caractère est le même, c'est la même traînodie, il y a beaucoup de lamentations. Il y a des endroits où on peut améliorer les choses, ça je suis persuadé de ça aussi. Il est temps maintenant que l'homme parle de lui-même. Mais là, c'est les hommes ne veulent pas et beaucoup de femmes ne veulent pas. D'autres femmes voudraient que les hommes prennent leur place d'hommes. Pas d'hommes avec un grand H, mais d'hommes avec un petit H. Ça, c'est complètement absent du radar masculin.
Alors, vous avez développé cette idée à quelques reprises. C'est une idée essentielle chez vous, je crois, justement, cette idée que l'homme doit renoncer à sa prétention à l'universel pour assumer sa singularité, pour assumer son particularisme, pour assumer sa condition propre, autrement dit. La question que je vous poserai à partir de là, c'est: qu'est-ce que l'homme risque... Imaginons que l'homme accepte de tenir un discours sur lui-même dans sa singularité. Qu'est-ce qu'il risque de retrouver qu'il aurait oublié entre-temps dans les brumes de l'universel exagéré?
Des blessures, peut-être. Un sens de la finitude. Un sens de la transcendance. Un sens de la fonction. Vous savez, quand vous êtes le référent universel pendant 5 siècles, vous n'avez pas besoin de vous interroger sur votre salaire, sur bien des choses. Les choses sont évidentes. Et beaucoup d'hommes hétérosexuels aujourd'hui pensent encore comme ça. Ils pensent que le féminisme, c'est une affaire de bobonne et d'hystérique féminine, sans plus. Il y a beaucoup de mépris là-dedans aussi, parce qu'ils sous-estiment ce combat-là. L'homme doit retrouver, comme je disais, sa finitude. Doit retrouver son goût particulier. Qu'il le fasse dans une fratrie, dans le sport, dans le milieu homo, dans d'autres milieux, pourquoi pas. Mais il faut qu'il Je reviens à cette notion sacerdotale. Léolane Kenner, vous avez parlé de pulsion de mort. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est une fonction de mort. Ce n'est pas une pulsion. La pulsion est psychique. La fonction est beaucoup plus religieuse, archétypale, anthropologique, que sais-je. L'homme a un rapport au tragique. La femme, beaucoup moins. Et c'est pas, je ne sais pas d'enfermer les uns et les autres dans des cases. L'homme, c'est celui qui dit à l'enfant de la mère, ta mère n'est pas tout. Il y a un monde qui existe et ta mère ne peut pas te satisfaire à tous égards. Je mets une limite, je te dis non, je te dis non. En psychanalyse, on parle du non du père. C'est une fonction essentielle. C'est un deuil suivi d'une renaissance à chaque fois. C'est comme ça qu'on grandit. Ça, c'est une des fonctions masculines. Et ce n'est pas un homme qui contrôle mur à mur la famille, pas du tout. C'est juste une question de séparation.
Léolane Kemner, je vous relance à partir de ce commentaire de Jean-Philippe Trottier qui revient sur la question de la fonction, finalement. C'est-à-dire, imaginons, mais évidemment c'est une hypothèse, mais que le féminin et le masculin ne soient pas interchangeables. Que chacun porte sa propre vocation, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas égaux, mais vous avez parlé tantôt de complémentarité. Vous avez évoqué pour le masculin, par exemple, la fonction de protection. La protection des siens, peut-être, et ainsi de suite. Si on devait nommer une fonction du féminin, vous vous rallieriez à la définition de Jean-Philippe Trottier, c'est-à-dire donner la vie, simplement, ou vous pousseriez plus loin la définition des fonctions respectives de chaque sexe?
Moi, je pousserais plus loin parce qu'à mon avis, les femmes, en gros, leur grande responsabilité, c'est les sciences du foyer, les sciences du cœur, c'est au niveau de l'émotif. Je suis d'accord pour dire que l'homme, et le père, en fait, est celui qui dit à l'enfant, il y a autre chose que ta mère. Et ça, je suis très d'accord parce que ces sciences émotives-là, justement, cette manière d'apprendre à vivre avec cette espèce de paquet de choses avec lesquelles on vit au monde en termes d'émotions, le père, ce qui nous aide, c'est à appliquer ces sciences de la famille-là dans la société, dans la cité, dans notre rapport aux autres. Je trouve que le père est l'individu qui sert surtout à nous introduire au reste du monde, tandis que la mère nous prépare à cette introduction-là. Et pour être moi-même un enfant qui a pu bénéficier des deux apports vraiment à part égale et de toutes les manières possibles, je trouve que c'est vraiment quand on possède les deux côtés qu'on peut réellement être en mesure de bien saisir ce qui nous entoure et aussi notre propre nature, je dirais. Parce que j'ai beau être une femme, j'ai une part de masculin très, très présente en moi. Puis justement, le fait de ne pas l'avoir nié, de l'avoir, d'être partie à sa découverte aussi, a fait qu'aujourd'hui, ben, même si j'ai grandi en étant fière d'être une femme, en étant fière de ma féminité, à l'aise dedans, reste que j'ai aussi après développé une grande empathie, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amitié envers l'homme dans ma lecture que je fais de lui, en fait. Parce que tout à l'heure, quand vous parliez des blessures et tout ça, moi, je regrette, mais si dans l'histoire, le stéréotype de l'homme est l'individu qui n'a pas de sentiments, qui est fermé, qui est très froid, ma propre expérience de la vie m'a montré que le cœur des hommes, c'est la chose la plus tendre qu'il n'y a pas, en fait. Et qu'à bien des égards, on est capable d'une bien plus grande cruauté, d'une bien plus grande froideur pour peu qu'on nous y pousse en tant que femme.
Alors, vous nous invitez à penser, encore une fois, la différence entre le masculin et le féminin. Dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra plus particulièrement sur les enjeux d'aujourd'hui liés au désir, toutes ces questions qui conditionnent finalement le débat public. Mais j'aimerais poursuivre un peu plus longtemps sur cette question des rôles spécifiques à chaque sexe, parce qu'elle me semble fondamentale. Aujourd'hui, lorsqu'on invite à réfléchir à la possibilité pour chaque sexe d'avoir sa propre fonction, disons ça comme ça, vite tombent les accusations de sexisme, vite tombent les accusations de pensée discriminatoire, vite tombent les accusations, finalement, les pires, qui nous disent que finalement on veut enfermer un sexe ou l'autre dans une définition très étroite et ne pas tenir compte du fait d'une diversité des hommes, d'une diversité des femmes. Est-ce que, et je pose la question aux deux, est-ce que vous sentez aussi dans l'espace public cette idée comme quoi tout discours qui prétend généraliser minimalement sur la condition masculine ou féminine est vite perçue comme sous le signe du scandale? Jean-Philippe Trottier.
Ben regardez Mathieu, chasser le naturel, il revient au galop, je l'ai déjà dit. Et avec le mouvement Balance ton porc, moi aussi et tout ça, n'est-ce pas? C'est que on veut supprimer la différenciation, la seule différenciation biologique, ben elle est, on n'y peut rien, c'est tout. En voulant supprimer ça, on l'a réintroduit, mais de façon dégradée. Dans Me Too, Madame se fait toucher la fesse gauche il y a 30 ans. Elle a depuis fait beaucoup d'argent, eu beaucoup de pouvoir, mais elle va dire ça aux médias, qu'elle a été dévastée, humiliée, elle n'a pas suivi une thérapie, elle a subi une thérapie. On rentre dans le registre de la victimisation. Il y a de vraies victimes, ça on ne discute pas là-dessus, il y a des femmes qui ont vraiment été victimes. Ça, je ne parle pas de ça. Mais je parle de la victimisation, est-ce qu'il y a autre chose ? C'est-à-dire qu'on a quitté les archétypes, on a quitté les rôles figés de nos grands-parents, où tout le monde était à sa place, n'est-ce pas ? Sans que ça satisfasse beaucoup de monde. Et on retrouve, non pas des rôles, mais on retrouve des étiquettes en essentialisant l'homme comme l'agresseur et la femme comme l'agressée. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a des hommes qui sont grossiers, il y a des femmes qui sont très fines, c'est très juste. Il y a des femmes qui sont grossières, aguichantes, menteuses, séductrices, manipulatrices, que sais-je, et des hommes qui tombent dans le panneau aussi, qui sont victimes de tout cela. Donc, en voulant se débarrasser de certains masques, identitaires, on en a réintroduit d'autres, notamment par le féminisme essentialiste, qui a réintroduit dans l'idéologie, dans le débat public, l'idée d'identité figée, et donc de victime et d'agresseur. On revient, mais de façon dégradée.
Léonine Kemner, est-ce que nous avons besoin, dans la vie publique, de toujours cantonner un sexe ou l'autre dans le rôle du méchant ou du gentil, du vertueux ou du corrompu? Est-ce qu'autrement dit, nous sommes capables de penser le rapport entre les sexes sans nécessairement culpabiliser l'un ou l'autre selon les circonstances et les époques?
Non seulement je pense qu'on peut, mais qu'on doit. En fait, ce que je trouve, c'est que c'est une clarification nécessaire dans notre compréhension, dans notre étude de ce qu'on est, nous, en tant que tel. Puis si on clarifie pas d'emblée les hommes, les femmes et tout ça, tout en se rappelant qu'on est libre d'aller de un ou l'autre dépendamment de notre orientation, dépendamment de notre vécu, de notre bagage, de notre identité profonde. C'est pas une question d'avoir pas le droit d'être plus un ou plus l'autre, l'aspect interchangeable que vous parlez, mais dans la réflexion à la fois individuelle et publique, je pense que la clarification que je pourrais appeler presque un sexisme positif est très nécessaire parce que
je me permets de vous reprocher cette formule-là, donc j'invite tout de suite à la clarifier.
J'allais le faire, mais bon.
Dans le sens qu'un sexisme positif, ce que j'entends par là, c'est que des spécifications, on va dire totales, si on peut dire, que c'est très, mettons, qu'il y a une limite bien définie dans certaines choses. Une limite qu'on a le droit de traverser ou pas, mais une limite qui existe néanmoins. Et justement, c'est le fait de faire cette clarification-là qui, à mon sens, nous permet ensuite de pouvoir mieux étudier toutes nos nuances.
Donnez une idée de cette clarification.
Ben, exemple, tantôt, quand je parlais de la fragilité émotionnelle méconnue des hommes, si on se la dit clairement, si on l'admet clairement aussi, je trouve qu'à partir de là, on est en mesure de mieux réfléchir les comportements, de mieux réfléchir les déviances en fonction de leurs sources aussi. Puis c'est la même chose du côté des femmes. Que ce soit, je veux dire, on a tendance à nous donner un petit peu le bon Dieu sans confession. Par exemple, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des saintes parce qu'on a souffert. On n'avait pas le choix. Il fallait vivre comme ça. C'était les mœurs du temps. Ce qu'on veut, c'est être aimé, c'est être reconnu, que notre histoire soit pas minimisée ou distordue, et de simplement avoir notre place comme telle. Donc, pour que ça se puisse, il faut définir, mais c'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Puis à partir de là, c'est d'avoir une réflexion qui est saine, qui est posée et aimante.
Je vous entends, mais je vous relance tout de suite, pour peu qu'on soit attentif au débat qui circule dans l'espace public. À l'intérieur même du mouvement féministe, on va entendre souvent l'idée suivante, c'est que l'homme et la femme, en dernière instance, c'est le paradoxe de certains féminismes, n'existent pas. Ce sont, bon, évidemment, il y a le sexe biologique qui existe, c'est la part résiduelle de réalité. Tout le reste, ce ne serait finalement qu'un discours fantasmatique, cherchant enfermé à assigner une identité à l'homme et à la femme. Et je donne l'exemple, on va nous dire finalement, mais chacun est libre d'inventer son sexe comme il le veut.
Mais je veux bien alors, mais qu'il sorte de l'idéologie.
C'est ça,
s'il veut vraiment se réinventer, qu'il ou elle cesse d'être féministe. Puisque ça redevient, avec les dogmes féministes, on revient vers une forme de déterminisme.
C'est-à-dire, je vous invite à développer ce que je
comprends.
Parce que
l'idéologie vous dit, toi, pendant 10 000 ans, t'as été opprimé, mur à mur, t'as été ici, ça, réclame ça. Tu n'es pas capable de faire le mal en tant que femme, tu es réceptrice du mal de l'homme. Je caricature, si vous voulez. Mais on revient vers une forme de déterminisme. Je suis femme, je suis féministe, et donc j'avale une cassette identitaire. Alors, oui, il y a une contradiction totale entre ça. J'ai une cassette identitaire, en même temps, je me réinventais. Mais si je rentre dans le temple féministe, je ne peux pas me réinventer. Je suis d'entrée de jeu déterminée par l'idéologie.
On doit se conformer pour justement faire partie du dogme, du nouveau dogme. Je veux dire, on n'a pas le choix parce que sinon, on est ostracisé. C'est même très, très violent en tant que femme. Je veux dire, moi, je passe souvent...
Développer un peu.
Je passe souvent pour une traîtresse à mon propre sexe parce que je tiens un discours qui est très empreint d'amour envers les hommes. Je veux dire, je m'en cache pas. j'ai grandi entourée d'hommes, j'ai observé les hommes, je veux dire, je vous aime de tout mon cœur, littéralement. Et moindrement que j'ai envie d'apporter une nuance ou d'apporter peut-être un autre versant pour équilibrer le discours, c'est l'enfer, je veux dire, on me dresse des bûchers, là.
Même chose pour les Juifs. Écoutez, quand Hannah Arendt écrit pour The New Yorker « Eichmann à Jérusalem », elle dit, ben, Adolf Eichmann n'était pas méchant. C'est un gars qui n'avait pas de pensée. Ah, Hans Jonas, Gershom Scholem, enfin tous les intellectuels juifs de l'époque disent « You're a self-hating Jew ». Tu es une juive qui se déteste. Donc on ne peut pas, dès qu'on embrasse une cause, forcément on doit rentrer dans toute la dogmatique, dans tout le, je vais dire, le folklore à la limite, mais il faut rentrer dans un discours déjà préétabli. On ne peut pas avoir une marge là-dedans. C'est ça le danger de l'idéologie.
Puis ce qui est difficile aussi, c'est que beaucoup de mes consoeurs vont me dire que je suis dominée, que je suis brainwashée en bon français au discours patriarcal, alors que curieusement, je me sens immensément plus libre de discourir avec des hommes. Je me sens immensément plus libre de, justement, de m'habiter en tant que femme dans un environnement plus masculin parce que, entre nous, entre filles, je trouve que finalement, non seulement il y a une espèce de... C'est un ambigu assez particulier entre l'esprit de compétition puis un esprit de solidarité absolue. Donc, au sein, en ce moment, étant donné que ce discours-là, justement, est empreint énormément de souffrance, puis quand on souffre, on ne réfléchit pas tout à fait à la juste mesure qu'on pourrait. C'est comme quand on a une rage de dents, on ne prend pas des grandes décisions quand on souffle, le martyr. C'est un peu le même principe. Ce que je souhaite pour les femmes, en fait, c'est que la fracture a été faite, le dialogue a été ouvert, l'abcès a été crevé. À partir de maintenant, il faut réapprendre à se parler parce que là, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus échanger. Puis, excusez-moi l'expression, mais si on ne réapprend pas bien vite, ça va aller mal à la chope tantôt.
Ben, mais je passe la parole dans un instant, Jean-Philippe Trottier, mais juste une question, Léonane Kemner. Vous dites, quand on tient un discours comme le vôtre dans l'espace public ou même en privé, on évite d'ostraciser, on est qualifié de traîtresse à son propre sexe, pour reprendre vos mots. La question que je vous poserai, c'est qui vous accuse ainsi?
Je dirais
sans donner des noms personnellement, mais qui sont les personnes qui sont en position de distinguer entre les bonnes et les mauvaises femmes dans les circonstances?
Je dirais, normalement, c'est les femmes qui ont le plus souffert, qui ont ce discours-là à mon égard ou à l'égard des autres femmes de ma connaissance, qui vont tenir un discours plus équilibré, peut-être, sur beaucoup de niveaux. Parce que moi, j'aime à dire que plus une femme ou n'importe quel individu, plus la personne est virulente dans son discours, plus il manque de nuances, plus elle est agressive, pour moi, c'est l'indice de sa propre souffrance. Parce que c'est en son nom qu'elle va aller se battre. C'est en son nom et au nom de toutes celles qui ont vécu, ou de tous ceux et celles qui ont vécu quelque chose de similaire, qu'elle va monter aux barricades. Donc, je peux comprendre. Il y a une grande part de moi, quand je reçois ce genre de discours-là, qui est empreinte de compassion, parce que je me dis que si la personne s'est sentie agressée par des nuances que je ne veux pas, ni attaquantes, ni méprisantes, et encore moins réductrices envers la situation des femmes, des vraies agressées, tout ça... Je me dis que c'est très dommage quand même.
Jean-Philippe Trottier, il y a environ une minute avant la pause.
Oui, qu'allais-je dire? Enfin, j'ai pas dit mes idées. Oui, je dirais que le dialogue s'instaure, que les hommes enfin enfilent leurs culottes. Ah non, l'homme, et notamment au Québec, ne veut pas. Il est ouvert, il est tolérant. Entre quatre murs, avec une bière, à sa peste contre les néo-féminismes. Et j'en ai vu, moi, notamment les intellectuels. Ah, mais officiellement, tout le monde est pour la vertu, et tout le monde va, j'allais dire une expression très obscène, mais tout le monde va courtiser l'idéologie dominante, n'est-ce pas? Et en privé,
gâteau.
On va tout... Pardon?
Pour avoir sa part du gâteau, parce pour que avoir c'est sa nécessairement part... notre et place aussi, en société.
Et aussi, souvent, disons-le vulgairement, pour protéger sa baise et sa job. Okay, c'est pour ça que je dis que l'homme doit réfléchir à lui-même, pas contre le féminisme, mais comme dans les arts martiaux, se servir de cette opposition critique, si vous voulez, pour rebondir intelligemment.
Mais je dirais...
En 10 secondes?
Oui, peut-être qu'à mi-chemin, entre l'aplaventrisme et le fait de mettre ses culottes, on pourrait simplement inviter les hommes à se présenter socialement aussi.
Alors, nous revenons sur toutes ces questions dans la deuxième partie de l'émission, à la vie des idées, avec Léonane Kemner et Jean-Philippe Trottier.
Radio VM, au cœur de l'essentiel.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour la deuxième partie de cette émission consacrée à cette question bien singulière. Peut-on encore aujourd'hui penser le masculin et le féminin? Je reçois Jean-Philippe Trottier, auteur de plusieurs essais sur la question sur la question du féminisme et qui revenait dans les pages de la revue Argument tout récemment avec un texte d'une grande qualité, un texte débat, vivons-nous dans une société patriarcale? Et Léonane Kemner, romancière, qui a aussi écrit et réfléchi à ces questions. Alors, La deuxième partie de l'émission, j'espérais la consacrer à cette question explosive, pour utiliser un euphémisme, du désir, qui est si discuté aujourd'hui dans l'espace public, mais avec un sentiment d'inquiétude, le sentiment peut-être d'évoluer quelquefois sous le signe d'une police de la pensée, pour reprendre une formule utilisée ces derniers jours par certains. On le sait, il y a eu le mouvement Weinstein autour de l'affaire Weinstein, moi aussi, MeToo, balance ton porc. On a vu en France une résistance peut-être inattendue, mais pouvait-elle surgir d'ailleurs qu'en France, autour de Catherine Deneuve, invitant à dire qu'il peut avoir des excès dans ce mouvement, moi aussi, et ainsi de suite. Au-delà de la question du moi aussi, MeToo, balance ton porc, moi, la question qui m'obsède à travers ça, et je vous la soumets, c'est la suivante. Évidemment, les deux sexes se désirent, en général, mais ne se désirent pas nécessairement de la même manière. Le désir masculin n'est pas un simple miroir du désir féminin. Les deux sexes ne se désirent pas de la même manière. S'il y a une entente, une réciprocité, il n'y a pas une identité des désirs, disons ça comme ça. Peut-être que je me trompe, notez bien. Alors, je vous pose cette question-là, Léolane Kemner, d'abord, privilège aux dames. Est-ce que je me trompe de dire que nous ne parvenons plus à penser aujourd'hui l'asymétrie, l'apostrophe, des désirs, que nous ne parvenons plus à penser que l'homme désire la femme, qui désire l'homme, mais les deux ne se désirent pas de la même manière?
Ben en fait, c'est que, pour peut-être formuler un petit peu, au moment donné, vous m'avez demandé, tu sais, est-ce qu'on sait quoi faire avec le désir au Québec? Ou un peu partout ailleurs, mais moi j'ai envie de répondre, mais on n'a jamais su quoi faire avec le désir.
Et on ne saura jamais peut-être.
Je suis pas d'accord, je crois qu'on a des bonnes pistes en ce moment et l'ouverture nécessaire pour pouvoir réfléchir comme il faut à la question, mais à travers l'histoire, on n'a jamais su quoi faire avec le désir. On a erré tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, entre la méthode dure ou la méthode douce. La méthode dure est en fait d'austérité, d'interdiction, de menace, de châtiment, de déni total de la vitalité du désir dans la nature humaine et aussi dans la création d'un folklore mensonger qui a accouché de tabous qui ont encore la vie dure aujourd'hui, mais qui est quand même très intéressant à étudier pour qui s'y intéresse. Et la méthode douce, c'est l'espèce de révolte, l'abandon, une espèce d'hédonisme total aussi, puis surtout un refus de toute responsabilité sensuelle. Et ça, ce que je veux dire par responsabilité sensuelle, c'est que, exemple, à savoir si une femme peut s'habiller comme elle veut à toute heure du jour, dans tout quartier, la réponse, c'est oui, elle a le droit. Elle est complètement libre de le faire. Mais à la rigoureuse condition qu'elle prenne la responsabilité de ce qu'elle projette, de comment qu'elle s'habille, et de prendre aussi conscience des effets qu'elle provoque, et de se poser la question, est-ce que c'est ça que je veux, est-ce que c'est ça que j'ai envie? La véritable liberté est dans la responsabilité complète. Donc, je me dis que, au-delà de ça, dans l'histoire, c'est comme si les sciences du désir sont toujours restées obscures avec des tabous inutiles, puis que la réelle solution, en fait, qui peut être accouchée en ce moment, c'est l'éducation. C'est pas à coup de bâton sur la tête, c'est vraiment l'éducation. L'éducation pour éliminer une fois pour toutes des concepts comme le fait qu'une femme peut être salie, qui fait aucun sens pour moi. Parce que vous, messieurs, est-ce que vous avez déjà l'impression de vous être salie en touchant une femme? Je crois pas. Ou un homme? Je crois pas, bien honnêtement. Tandis que mes sœurs, elles, pour peu qu'on nous touche d'une certaine manière, on se sent sali. C'est un concept judéo-chrétien qui est la vie dure et qui malheureusement fait encore beaucoup de dommages. Et pour revenir à l'éducation, c'est surtout d'expliquer le désir, sa source, comment bien le vivre, le manifester, puis aussi donner des outils à nos jeunes femmes pour savoir bien gérer le désir, pour se l'expliquer, parce que à travers l'histoire, on a appelé ça des tourments, des démons, mais après tout, c'est seulement la nature humaine.
Jean-Philippe Trottier, je reprends la question en lui donnant une connotation québécoise particulière. On entend souvent dire, peut-être c'est vrai, peut-être est-ce faux, qu'il y a un rapport trouble au désir et à la séduction au Québec. On va même dire que, par exemple, la France a une culture de la séduction, une culture du désir, une culture du charme, qu'on met souvent en contraste avec le puritanisme nord-américain ou le puritanisme scandinave, donc il y a une singularité française. On dit aussi, inversement, que les Québécois ne savent pas trop quoi faire avec le désir, comme si notre culture n'avait jamais été capable, finalement, de cette pulsion humaine fondamentale, de la symboliser, de la culturaliser, de la métaboliser de telle manière que le désir, nous saurions qu'en faire dans les rapports sociaux. Partagez-vous ce sentiment? Et par ailleurs, je vous pose plus largement la question, est-ce que je me trompe si j'affirme que les hommes et les femmes ne se désirent pas de la même manière et que se trouve là une part du mystère du désir amoureux?
On est une société de survivance au Québec, et quand on est dans la survivance, le désir est un luxe, sauf dans la bourgeoisie. Les paysans, ils devaient labourer une terre, Mesdames avaient une trolley d'enfants à pondre pour qu'ils puissent ensuite cultiver la terre, etc., et faire la revanche des Verseaux et tout le tralala. Donc, le désir suppose une certaine paix, une certaine marge financière, vitale, culturelle, qu'on n'a pas toujours eue ici. On demeure assez fruste.
Donc, pour vous, le rapport qu'on dit trouble des Québécois au désir, ça s'exprime aussi, c'est une des conséquences d'une société inachevée, conquise, dominée?
C'est
mon vocabulaire plus que le vôtre.
Oui, je sais que vous êtes indépendantiste. Enfin bref, on ne rentrera pas là-dedans.
C'est pas le sujet.
Indépendantiste,
c'est pas
le sujet.
Ah, ça c'est bien, ça voilà. Un livre à quatre mains. Uniquement quatre mains.
Poursuivez.
Et qu'allais-je dire ? Il y a aussi... notre catholicisme a été janséniste. Et on a idéalisé les sexes à un degré absolument maladif ici. La femme pure, apôtre de grande vertu, n'est-ce pas, disait un Lorenzo Gauthier, un abbé des années, je crois, 20-30. La femme était, mais alors, juchée sur un piédestal marial, si vous voulez, d'inaccessibilité, de pureté. C'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'elle vote et qu'elle travaille. C'était dans la boue, tout ça. Le politique était... affreux. Donc on a construit une identité féminine absolument cadenassée, inaccessible, très souvent. Pas partout, ni mur à mur non plus. Et donc, les modèles qu'on avait étaient évangéliques, mais évangéliques compris de façon presque comme des glaçons. Donc la seule façon, c'était de faire sauter tout ça, on l'a fait sauter, puis on est allé dans l'autre sens. Quand vous dites... Léolane, je reviens sur une chose que vous avez dit, quand un homme me touche, je me sens sali. On a tendance à dire « Ah, la pauvre femme, mm-hmm. par compassion ». Pourquoi quand un homme dit « Quand je touche une femme, je me sens sali », on dit « Ah, la femme est sale, c'est dégueulasse, encore ».
J'ai jamais entendu ça, un homme dire « Je me sens sali », donc c'est peut-être un manque de culture.
Je l'ai entendu, mais ce que je dis, c'est que si un homme dit ça dans le discours public, encore une fois, on va dire « Ah, c'est la femme qui est victime, parce que l'homme se sent sali, c'est la femme qui est encore sale ». On dirait que la femme a de la peine à sortir de son côté « Ève », et on la catapulte dans son côté mari. Elle est soit sale, soit complètement pure.
Il n'y a pas d'entre-deux.
Il n'y a pas d'entre-deux. Et dans une société post-religieuse, je ne suis pas sûr de ça, mais qui a été marquée par le jansénisme, l'identité féminine ici est extrêmement bipolarisée entre la femme pure et la femme salope. Et par ricochet, l'homme est un homme tout à fait castré ou un homme violent et sauvage et dégueulasse. Je suis comme vous d'accord pour qu'on puisse trouver une zone tampon, une zone intermédiaire où on n'est ni ange ni démon.
Effectivement. Puis aussi, le fait est que ce que sous-entend le discours que la femme puisse être salie, et ça m'horrifie, c'est que ça sous-entend que l'homme est sale lui-même.
Exactement.
Et je trouve que c'est une aberration en soi. Je veux dire, on est fait. Passez-moi l'image, mais on est fait pour s'emboîter, les hommes et les femmes, OK? Donc, on est fait pour aller ensemble. Excusez-moi pour la spécification, mais reste que, biologiquement, c'est notre but premier que de ne faire qu'un avec l'autre. Donc, je trouve ça non seulement triste, mais hautement tragique de sous-entendre que l'un comme l'autre, on puisse avoir ce pouvoir de salir l'autre dans nos rapports. Je sais que c'est possible, et je sais qu'au nom de toutes les déviances qui existent, je sais que c'est possible de, justement... laisser cette impression d'être sali ou d'avoir sali. Mais ultimement, je trouve que c'est une fraude humaine que de prétendre ça à la base.
Léonard Kemner, je vous relance la question que j'ai posée à Jean-Philippe Trottier sur la spécificité québécoise du désir. Je me souviens de l'avoir lu, mais je n'ai pas le souvenir du livre exactement. Une journaliste française disait, au Québec, ce qu'on constate, c'est qu'une Française qui arrive ici les premiers jours, elle se sent libérée parce qu'elle ne se sent pas regardée à chaque moment, elle ne se sent pas désirée à tout moment, elle ne sent pas sur elle l'emprise du désir masculin, donc c'est une libération, et au bout de deux semaines, elle commence à s'ennuyer de son pays en disant, mais est-ce que j'existe encore? Est-ce qu'on me regarde? Est-ce que j'existe d'une manière ou de l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, eh bien, vous êtes québécoise, vous baignez dans cette culture, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, une description qui vous semble exacte d'une manière ou de l'autre de notre rapport au désir, et si oui, comment l'expliquez-vous?
En fait, c'est rigoureusement exact, je trouve, parce que je trouve qu'on se méprend sur le réel qui caractère de la femme québécoise. C'est-à-dire que dans la sphère publique, on a tendance à nous décrire beaucoup comme des victimes, comme justement de pauvres femmes qu'il faut prendre soin absolument. Tandis que au regard de l'histoire du Québec, les femmes, c'était en bon québécois, des germaines, et au sens le plus positif du terme, parce que ça devait emmener large.
Le sexisme positif, les germaines positives.
Effectivement, oui, parce que ça devait emmener large. Ça devait avoir les hanches fortes et le dos solide pour coloniser une... littéralement, un Canada tellement difficile, plein de défis. Donc, ça pouvait pas être de la femme fragile qui a pu peupler le Québec comme tel. Donc, je trouve que si on se regarde dans le blanc des yeux, si on regarde nos mères, si on regarde les femmes qui nous entourent, c'est des femmes fortes comme telles. Et j'ai toujours trouvé que oui, effectivement, en comparaison, à bien des égards, l'homme était plus... avait une tendance à la douceur qu'on ne parle pas réellement, je trouve. Si on regarde nos pères, nos grands-pères et tout ça, il y a la femme qui déplace de l'air, qui parle fort, et t'as l'homme qui est comme plus discret à côté. C'est souvent l'image caricaturale, à la limite, que j'ai pu observer, même dans ma propre famille. Sauf que je trouve qu'on aurait intérêt à se rappeler que non, la femme au Québec, c'est pas seulement soit une Marie couche-toi là ou soit une victime. C'est aussi une femme qui sait vivre, qui sait s'organiser, qui sait progresser en société et qui a fait justement des grandes avancées en très peu de temps, mais aussi sur une longue période aussi. Puis pour revenir sur la question du désir, juste peut-être pour terminer là-dessus, je trouve qu'on comprendrait immensément mieux la disparité des désirs si on remontait à la source. Parce que qu'est-ce qu'une femme veut ultimement? C'est quoi le désir originel d'une femme? C'est d'être aimée. Et si on prend, et si on se pose la question, à contrario, chez un homme, c'est quoi le désir ultime d'un homme? C'est d'être choisi. Donc, en partant de cette idée-là, on peut mieux comprendre tous les comportements et ultimement toutes les déviances qui en découlent.
Donc. Jean-Philippe Trottier, vous en vouliez intervenir, je crois, sur ce qui vient d'être dit.
Oui, sur plusieurs choses, mais oui, d'être aimé et d'être choisi, c'est très bien. Je crois que Margaret Atwood disait un petit peu la même chose que vous, la romancière d'Ottawa, ma ville natale, du reste. D'ailleurs, elle a sorti un texte il n'y a pas longtemps. Ouais, hein. Évidemment, elle est mauvaise, on l'a traité de mauvaise féministe, etc.
Oui, je ne la trouve pas si mauvaise que ça, moi.
Ah non, elle est bien, moi, je trouve qu'elle est très bien. Il faudrait peut-être revenir aussi à l'idée de la parole. C'est qu'au Québec, et les hommes et les femmes ont un rapport vicié à la parole. Les hommes se taisent et les femmes, enfin, je généralise encore une fois, mais une femme peut beaucoup plus parler qu'un homme. Un homme peut déparler. Mais la parole, traditionnellement, a été féminine ici. Et l'homme se tait. Le problème, c'est que le rapport à la parole chez l'homme est tout à fait... l'homme n'ose pas prendre la parole. Et il peut parler, il peut dire des niaiseries, etc. Mais si vraiment il a une parole profonde... Il va boire ou il va se suicider. Le suicide masculin au Québec est lié, je pense, à un désir avorté. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à sa racine profonde, on se rend compte que certaines choses ont cloché et ce rapport est trop dur à assumer et on préfère se suicider. Bon, je parle un peu comme un psy, là. Mais...
Non, vous dites des choses essentielles, c'est-à-dire qu'il y a une douleur spécifique à l'homme québécois.
Il y a une douleur et l'homme ne veut surtout pas en parler. Les intellectuels, encore moins, du reste. Ils se sentent souvent usurpateurs dès qu'ils écrivent un texte, dès qu'ils parlent sur la place publique. Et c'est comme si la parole ne pouvait pas leur appartenir. Et donc, ils vont être grandioses, grandiloquents ou misérabilistes. Ils vont rarement trouver la juste mesure. Idem dans le féminisme, on est dans l'exagération totale. Et il s'agirait pour les hommes de pouvoir, et ça c'est un des chantiers de la masculinité que j'aimerais bien travailler, un rapport à sa parole, un rapport apaisé, un rapport à son histoire, à son passé, à ses symboles fondateurs, à son désir masculin justement. On n'est pas des animaux, on essaie de se rabattre sur la question biologique et naturelle, mais on a aussi un rapport à notre spiritualité, à notre anthropologie. Et au Québec, c'est très problématique. Et quand vous dites ça à un homme, « Oh ben c'est intéressant comme point de vue. Oh ben ça m'interpelle. » Autrement dit, parle à mon C, point de suspension, ma tête est malade.
Et si je peux rebondir là-dessus, c'est que une autre chose qu'on ne remarque pas ou qu'on ne s'admet pas, c'est que oui, la femme a été opprimée et tout ça, mais ces règles-là qui ont été dictées, ça a été dicté par une caste sélecte d'hommes.
Et sur une caste sélecte de femmes.
Oui, aussi. Et je trouve que à échelle égale, l'homme populaire, à travers l'histoire, a eu autant pas de pouvoir que les femmes dans la vie courante, dans tout ça. Parce qu'on oublie aussi que, je veux dire, les hommes se levaient pas en se disant, tiens, aujourd'hui, moi, je vais opprimer quiconque est féminin autour de moi. Non, c'est des mœurs, des coutumes. Je veux dire, chers amis, si on arrivait en ce moment, puis c'est un peu ce qui se passe en vous disant, tout ce qu'on vous a appris est faux, est mauvais, est dangereux, vous devriez vous poser une question un petit peu, parce que c'était pas nécessairement de votre faute si vous aviez des comportements X, parce que ça relève de votre éducation aussi. Donc, tout à l'heure, quand je parlais qu'il y avait eu une grande évolution dans la pensée masculine, une grande ouverture aussi, c'est ça que je veux dire. Donc,
mais Léonine Kemner, vous avez dit quelque chose d'essentiel tantôt, et d'autant plus essentiel que c'est à peu près interdit. Donc, vous avez cherché, vous avez distingué les désirs. Et c'est quelque chose qui est tellement, tout le moins qu'on entend assez rarement dans la vie publique québécoise. Donc, je vous inviterai à développer un peu quand vous distinguez entre l'homme, la femme qui veut être aimée et l'homme qui veut être choisi. Vous parlez ici de deux manières de s'inscrire dans l'univers des sentiments, deux manières de s'inscrire dans le monde, deux manières d'entrer en relation. Pourriez-vous développer un peu sur cette distinction?
Mais c'est tout simplement que c'est ce que je remarque en regardant tout ce qui m'entoure, que ce soit dans les arts, la culture ou peu importe. Je veux dire, ce qui fait qu'une femme est en colère, c'est quand elle a été mal aimée, quand elle a été froissée dans son intimité profonde. Ça vient toujours d'un manque d'amour profond. Quand je regarde aussi du côté des hommes, quand les comportements déviants embarquent ou agressifs, c'est comme si, au début, je croyais que c'était comme issu d'une jalousie innommée, mais je pense qu'au-delà de la jalousie, c'est le fait de ne pas être choisi qui fait qu'à un moment donné, l'homme va développer des comportements agressifs. C'est comme dans la lettre, le collectif des 100 femmes, je trouve qu'au travers de tout le brouhaha que ça a engendré, il y a une notion essentielle qui a été nommée et qu'on ne parle pas, et c'est celle de misère sexuelle. Puis j'ai vu des réactions chez les femmes de qui comprenaient pas visiblement ce que ces femmes-là avaient voulu dire par misère sexuelle. Et moi, ce que j'entends par là, c'est quoi la misère? C'est quand il y a une carence tellement épouvantable que la personne qui l'expérimente, qui la vit, en vient à perdre le contrôle sur son instinct de la combler, en fait. Et justement, quand un homme va se masturber littéralement sur une femme dans le métro, parce que j'ai entendu ce témoignage-là récemment dans tout ce qui s'est dit, oui, c'est dégoûtant. Puis oui, si on me faisait ça, moi, la gifle partirait. Je serais très, très, très agressive si on me faisait ça en public. Par contre, au-delà de mon sentiment, au-delà de l'impact que ça a eu sur moi, ce que ça me montre, c'est un homme qui est tellement malade dans sa sexualité qui en vient à... C'est comme une espèce d'appel à l'aide que même lui n'a pas nécessairement conscience de lancer à ce moment-là.
À cette différence près, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie pour les hommes. Il y en a une pour les femmes. Il y a 100 ans de féminisme et donc beaucoup de femmes peuvent cacher leur misère en maquiller la description aussi, quelquefois être exacte, mais il y a une caisse de résonance qui donne une acceptabilité sociale à ça. Les hommes, malheureusement, n'ont pas cela. Et c'est pour ça que je disais en début d'entrevue qu'il n'y a pas d'être masculin, il n'y a pas de réflexion. Et les premiers désintéressés, c'est les hommes eux-mêmes, ils ne veulent pas. Ils veulent être choisis, vous disiez, Léolane, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, Margaret Atwood, la phrase qu'elle disait justement, je reviens à ça, c'est que les femmes ont peur d'être tuées par leur amant, leur conjoint, mais les hommes ont peur qu'on se moque d'eux. Mm-hmm. Ça revient un peu à ce que vous dites.
C'est une mort de l'estime. Puis ça, pour un homme, je veux dire, c'est comme un peu pour l'honneur. C'est quelque chose de vital, parce qu'enlève son estime et son honneur à un homme, il va rester quelqu'un qui, comme vous dites tantôt, qui va être enclin vers le suicide à ce moment-là, parce qu'il n'existe plus à travers... Autant que nous, on a l'impression d'exister à travers le désir qu'on génère, autant que les hommes existent à travers leur estime et leur honneur.
Et le problème, c'est que la blessure masculine, qui est un sujet tabou, mille fois, si vous voulez, fait que l'homme par-dessus va s'efforcer à jouer, à porter un masque. Et la société le lui permet encore jusqu'à un certain point, mais de moins en moins, faire de l'argent, que sais-je, avoir du succès. Et tout ça pour maquiller la carence. Parce qu'un homme n'a pas de faiblesse. Mmh. Le féminisme, même le néo-féminisme, est hyper patriarcal. Il va interdire formellement à l'homme d'avoir une souffrance et de l'assumer et de pleurer des larmes d'homme.
C'est très ironique parce qu'en fait, l'ensemble des problèmes entre les sexes découle du fait qu'on n'admet pas la blessure de l'homme. Et parce que c'est de cette blessure-là que découlent tous les comportements déviants.
Mais laissez-moi rebondir sur une chose. On n'admet pas la blessure de l'homme, c'est vrai, mais dans le féminisme, on n'accepte pas la capacité de la femme d'être l'auteur du mal qu'elle pourrait commettre. Vous aviez dit quelque chose un peu dans ce sens-là. Qu'elle soit auteur du bien qu'elle commet, on est tous d'accord. L'homme et la femme sont capables de bien comme de mal.
Mais le féminisme fait
une impasse là-dessus.
Il y a une phrase que j'aime dire, en fait, c'est que nous sommes la mère de tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas nos fils. En ce sens qu'il n'y a pas un homme qui est pas né d'une femme. La responsabilité qui nous incombe est énorme à travers l'éducation. Et je sais que ça peut avoir l'air extrême ce que je dis là, parce que l'éducation que va donner une femme est rigoureusement celle qu'elle a reçue, je le comprends bien. Mais reste que, pour revenir avec ce que je disais tantôt, la solution passe par une réelle revitalisation de l'enseignement, de l'éducation, pas juste à l'école, mais au sein des foyers. Parce que si, je sais qu'on est beaucoup sur le sujet des hommes en tant que tel, mais si un homme est éduqué de sorte à ce que naturellement en lui, il ait accès à ses propres émotions, qu'il soit capable de les manifester et en plus qu'il soit capable d'interagir avec le sexe opposé dans tout son mystère, bien, c'est ça qui donne des hommes sains d'esprit, des hommes amants et amoureux aussi.
Ce qui suppose des institutions aussi.
Oui,
un homme ne se satisfait pas uniquement de l'amour maternel. Au début, il en a besoin comme une fille aussi. Mais il faut qu'une société ait des institutions dans lesquelles les enfants puissent se projeter et trouver des figures tutélaires, des héros, des poètes, enfin que sais-je, à qui ils peuvent s'identifier. C'est pas juste dans la famille que ça se passe. C'est l'aspect fondamental, mais la famille est également la caisse de résonance de ce qui se passe dans la cité. Or, quand dans la cité les institutions sont faibles ou faillies ou faiblissantes, il y a une répercussion dans la famille aussi, et on revient au biologique uniquement.
Alors, je vous relance sur une question qui me semble essentielle dans la question du désir. C'est ce qu'on pourrait appeler le mythe de la transparence du désir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tendance à croire que le désir peut être intégralement compris, qu'il n'y a pas de part sombre, qu'il n'y a pas de part inavouable, qu'il n'y a pas de part complexe, qu'il n'y a pas de part contradictoire dans le désir d'une manière ou de l'autre. Est-ce que, d'une certaine manière, nous avons une psychologie suffisamment fine du désir masculin et féminin dans nos sociétés? Sommes-nous capables de les comprendre, au-delà du « je te veux, tu me veux », appelons ça comme ça, est-ce que nous sommes capables de comprendre la psychologie propre des désirs masculins ou féminins, ou est-ce que nous voulons même les comprendre d'une manière ou de l'autre?
Que, honnêtement, c'est qu'on est très de part et d'autre, très nombriliste sur la question du désir. C'est mon désir qui importe, que ce soit homme ou femme. Ce n'est, à la limite, c'est comme si on extrapole le discours, on pourrait quasiment dire qu'il y a seulement mon désir à moi qui existe. Et je trouve que, en fait, toute l'idée même du plaisir à la séduction est de s'intéresser au désir de l'autre.
C'est la formule de Hegel, si je ne me trompe pas, le désir du désir de l'autre.
Je la connaissais pas.
C'est pas Lacan, ça?
Je crois que de mémoire, c'est Hegel, mais il se peut que je me trompe.
Je vois mal Hegel comme un être désirant.
Oh, pourtant, c'est pas complètement absent dans son propos.
C'est bon. C'est le Hegel des amants?
Enfin, tout ça pour dire... tout ça pour dire que je trouve que c'est très stérile que de voir le monde à travers la lunette du désir d'un seul sexe. Parce que justement, et puis surtout avoir la prétention de penser qu'on y voit clair encore aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a des nouvelles ouvertures ou une nouvelle liberté de langage qu'on y comprend plus quelque chose. Il faut se donner le temps de la réflexion, il faut se donner le temps de l'expérience aussi, et le droit à l'erreur surtout. Donc là, il faudrait vraiment sortir de cette espèce de...
Qu'est-ce que vous appelez droit à l'erreur?
Le droit à l'erreur dans les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que aussi dans la lettre, on parlait de maladresse.
Dans la lettre patronnée par Carte...
Oui, c'est ça le collectif. Donc, je veux dire, oui, ça comporte des imperfections, mais ultimement, ça soulevait de très bons points, notamment le droit à la maladresse. Je trouve que, non seulement, si on se calme les nerfs, il y a quelque chose de très, très mignon à voir un homme s'essayer de toutes les manières à la courtiserie, mais aussi, c'est comme ça qu'on apprend. Puis c'est important, en tant que femme, d'apprendre à donner des signaux clairs aussi. Et que quand on les donne pas clairs, qu'on est consciente qu'on nous donne des signaux pas clairs aussi. Et ça fait partie du jeu de la séduction aussi, parce que il faut se rappeler qu'on est légataire d'une culture amoureuse basée sur la drague insistante. Parce que nous, en tant que femmes, on est élevés de sorte à se faire dire « faut pas que tu sois une fille facile ». Donc, si on grandit de sorte à trouver tous les stratagèmes inimaginables pour pas céder aux premiers abords, ça va nécessairement engendrer une réaction-réponse chez le sexe opposé. Et si l'homme est moindrement mal éduqué, mal outillé, ben ça va s'exprimer par de grandes maladresses. Et s'il y a de l'agressivité en plus, ben là, on tombe dans l'agression. Mais il y a un processus, puis je trouve qu'il ne faut pas aller trop vite dans nos raisonnements, parce qu'on va couper court à des places, puis on va raisonner court surtout, et c'est ça qui est très dangereux.
Jean-Philippe Trottier, est-ce que vous craignez, d'une manière ou de l'autre, on arrive vers la fin de l'émission, il nous reste environ 3-4 minutes, est-ce que vous craignez, ou peut-être y sommes-nous déjà, quelque chose comme une guerre des sexes aujourd'hui?
Non, mais je ne le crains pas, je le vois. Je le vois. Et c'est une question, encore une fois, de rapport à la parole, rapport au discours, et comment on se présente envers autrui. Les hommes ont peur. C'est aussi simple que ça. Leur ouverture est souvent un maquillage de leur peur. Ah, mais dire qu'un homme a peur, ça va, on va rigoler de lui. Donc l'homme est coincé. Il faut qu'il prenne 3-4 bières, et là, il se décoince, mais il commence à dire des conneries.
Mais je dirais que toute femme qui aime les hommes a peur en ce moment. Parce qu'on voit des choses.
Donc ce n'est plus homme contre femme, c'est que certains, civilisation contre barbarie, bon sens contre insignifiance. Vous savez, je pense à ce mot de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Quand je vois le mouvement, moi aussi, il y a de vraies victimes, ça je le dirais tout le temps. Mais je veux dire, c'est tellement exagéré, c'est tellement... Les médias rapportent n'importe quoi maintenant. Madame Untel a dit qu'il s'est passé un truc un petit peu insignifiant, un petit peu déplacé il y a 30 ans. Les médias en font la une. Ça devient insignifiant à la longue parce que c'est comme si vous écoutez... Vous connaissez la symphonie Eroica de Beethoven, la troisième? Écoutez-la fortissimo, de bout en bout, c'est 40 minutes, on décroche au bout de 2 minutes. Ce qui est excessif est insignifiant. C'est ça le problème. Et Talleyrand, à mon avis, avait raison là-dedans. Alors, oui, je pense que oui. Je crains maintenant que nous, si les hommes ne se reprennent pas en main, je dis pas porter la culotte pour reprendre l'autorité, se redéfinissent en eux-mêmes. L'homosexualité peut être une voie de passage. Pas une voie de garage, mais une voie de passage pour retrouver une certaine fraternité et ensuite une remasculinité. Pourquoi pas? Et une re-hétérosexualité.
Léolane Kemner, vous dites que les femmes qui aiment les hommes ont aussi peur aussi pour eux en ce moment.
Oui, parce que je veux dire, je pense pas qu'on assiste à une réelle guerre des sexes. Je crois qu'on assiste au grand laïus d'une faction beaucoup, beaucoup moins importante en termes de nombre qu'on croit, mais immensément tapageuse, qui... On, en tout cas, à mon avis, ou selon ce que j'observe, semble avoir par moments beaucoup plus à cœur de se faire justice que de changer les mentalités. Et ça, je trouve ça dangereux. Je veux dire, historiquement parlant, chaque fois que j'ai vu un mouvement prendre cette tangente-là, ça donne jamais des épisodes très glorieux ou très, très jolis, jolis à raconter par la suite. Mais aussi, c'est que une chose qui est importante de remettre en perspective, c'est qu'est-ce qui a mené à cette impression de guerre des sexes-là? Tu sais, je veux dire, on subit un harcèlement médiatique où est-ce qu'on se fait bombarder d'excisions, de violences conjugales, d'atrocités à l'égard de la femme. Je veux dire, ça nous met dans un état que même si on n'est pas prime ou même si on n'est pas, à proprement parler, en train de réfléchir à la question, on se sent mal, on n'est pas bien. Donc, et puis à ça s'ajoute aussi le fait que des questions d'égalité fondamentale, exemple comme celui des salaires. Moi, ce que ça me dit, la tergiversion encore, c'est que les gens qui décident si oui ou non on mérite un salaire égal se disent, ben on le sait pas encore. Et c'est là l'espèce de grande absurdité qui fait qu'il y a une frustration qui monte et qu'elle est canalisée par cette faction plus agressive de féministes.
Alors, Léolane Kemner, Jean-Philippe Trottier, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment pour cet échange apaisé dans un climat social assez difficile. Jean-Philippe Trottier, Léolane Kemner, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La vie des idées.